Alors donc on laisse les groupes poser des questions à André. Donc animation, quelques minutes.
C'est questionnant possible la présentation.
Est-ce qu'on peut débuter les premières questions? Claire, Daniel, il y en a?
Oui.
Bon. Claire et Corinne, c'est bon?
Oui.
Maïté, Sylvie?
Ben. On a droit à combien de questions?
Bon, eh bien alors, André. Et en plus, avec celle des empêcheurs d'éduquer en rond, alors on commence. Laurence?
Alors oui, pour tout alors, le monde. Première question, quels sont les critères de choix pour aborder tel ou tel modèle? C'était ça la question? Quel critère de choix?
Ouais. Je ne suis pas sûre de pouvoir les poser toutes les questions.
C'est un peu la question du groupe ici, c'est comment aider les gens à s'y retrouver dans le choix d'une approche ou d'une autre? C'est-à-dire entre une approche plutôt transmissive, une approche plutôt allostérique, etc. Comment les aider à être pertinents?
À vous parler des soignants?
Oui, oui, oui.
Alors d'abord, moi je ne crois pas à la relation d'aide, je m'excuse. Je pense qu'on peut accompagner, on peut interagir, mais je crois qu'il faudrait peut-être sortir de ces relations d'aide, où on se fait plaisir et on n'apporte pas grand-chose. Donc pour accompagner, je veux bien vous répondre. accompagner au choix, ça dépend de votre patient, ça dépend du message. Si vous avez un geste technique à faire passer, c'est pas la peine de vous compliquer la vie, faites du conditionnement. Ça suffit. Si votre patient a le même cas de référence que vous, qui se pose les mêmes questions que vous, qu'il est capable de produire du sens comme vous, faites du transmissif. Ce que je fais avec vous en ce moment. J'ajoute juste un peu de décalage par mes images et j'ajoute juste un peu de provocation pour vous amener à agir et pas que vous rentriez dans le sommeil de la sieste. C'est tout. Mais là, je fais du frontal, si vous voulez. Par contre, quand on est dans un questionnement où ce que vous voulez faire passer comme message va à l'encontre de ce qu'ils pensent, là, vous devez dépasser le constructivisme, l'action, il faut passer dans l'austérie. Alors, évidemment, le problème qui est derrière, vous voyez, l'obstacle, c'est le fait qu'on voudrait une méthode pour tous les moments. Non, il faut pouvoir jongler plusieurs méthodes. Et pour ça, il faut, ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir des outils pour voir où est le problème. J'en parlerai éventuellement si on aborde la complexité après. Et en même temps, des ressources pour créer des situations. Est-ce que j'ai utilisé un jeu de rôle? Est-ce que j'ai utilisé un jeu de photo? Est-ce que je vais faire du théâtre interactif? Est-ce que je vais faire des exercices concrets?
Peut-être que le groupe aurait besoin d'une précision, parce que vous en avez reparlé, c'était de définir ou détailler l'allostérie.
Bon, ça, assez de gros mots, c'est pas ça le plus important. Le mot allostérie vient du fait que la première fois que je l'ai utilisé, c'était pour faire comprendre à des biologistes comment fonctionnait l'apprendre. Moi, je suis physiologiste d'origine et je voulais faire passer cette idée-là. Et à des biologistes, les protéines allostériques, ça leur parle. Je ne sais pas si vous rappelez vos cours. Les protéines allostériques, c'est quoi? C'est des protéines qui changent de forme et de fonction en fonction de l'environnement. Si vous agissez directement sur elles, elles se cassent. C'est pareil pour apprendre. Vous ne pouvez pas agir directement sur la tête de votre patient. La seule chose que vous pouvez faire pour changer sa façon de penser, c'est de créer un environnement qui va l'obliger de s'apercevoir ce qu'il pense, ça ne marche pas, et qu'il vaudrait mieux qu'il prenne un nouveau savoir. Donc c'est ça la première idée. La deuxième idée, c'est que ces protéines allostériques, vous savez ce qui fait le site actif, ce n'est pas la suite des acides aminés les uns après les autres, c'est les liens entre les chaînes. Et c'est pareil pour la pensée. Ce qui fait la pensée, c'est pas la suite des informations les unes après les autres, c'est les liens que vous faites entre ces informations, vous voyez. Donc c'est une métaphore que j'ai utilisée en congrès en Australie. Ça a été repris par les Américains sous Allosteric Learning Model of Jordan. Donc j'assume ma paternité, c'est tout. Mais parler éventuellement des constructions, reconstructions, comme vous voulez, si ce mot-là vous gêne.
Justement, là, le groupe avait plusieurs réflexions, questions autour de ce terme de déconstruction. déjà comment faire pour déconstruire. Jusqu'où a-t-on vraiment le droit d'aller pour déconstruire? Peut-être une question d'ordre éthique. Est-ce qu'on peut vraiment s'attaquer aux fondations? Et comment mêler déconstruction et l'incertitude, justement, en éducation thérapeutique?
Alors, le gros problème qui est derrière votre question, c'est le problème éthique. C'est le fait que dès qu'on fait d'éducation, on est un manipulateur. Alors, est-ce que vous assumez ça ou pas? Mais, généralement, vous faites quelque chose pour que la personne change d'idée ou de comportement. Et ce quelque chose-là, c'est de la manipulation. Est-ce que vous l'acceptez? Alors, évidemment, il y a manipulation et manipulation. Jusqu'où vous êtes allé dans la... Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Moi, j'utilise beaucoup l'humour, j'utilise un peu la provocation, mais c'est de la manipulation, malgré tout. Alors, pour déconstruire, là non plus, il n'y a pas de recette. Il faut créer, comme j'ai dit tout à l'heure, une situation qui va interpeller, qui va ébranler la personne, qui va l'obliger à expliciter ce qu'il pense. Alors, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui... qui a ces modèles-là de la digestion, par exemple, et que vous voulez lui faire passer un autre modèle, je prends un exemple très simple. Ce que vous traitez, c'est beaucoup plus difficile que ça. Ben, il faut les branler par rapport à ça. Là, je vous présente des évaluations qu'on fait avec des jeunes à l'école. Il y a des cours qui sont bien faits, des surcours qui sont faits. Malheureusement, le message ne passe pas. Donc, on n'a pas réussi à déconstruire le type digestif. Et vous avez toujours les trois mêmes conceptions. Ça rentre par la bouche, ça va dans le ventre et ça diffuse dans le corps. Vous voyez en haut, ça rentre par la bouche, ça sort par les fesses, ou ça rentre par la bouche, il y a deux tuyaux parce qu'il y a deux sorties. Et ça, vous le retrouvez de la maternelle à l'université. Donc, ça ne suffit pas de faire des cours, il faut déconstruire l'idée de digestion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment interpeller par rapport à ça? Pourquoi ils n'apprennent pas? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de questions. Digérer, pour eux, ça ne leur parle pas. Donc, il faut faire naître des questions. Alors, généralement, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je demande ça. C'est quoi? C'est quoi? Des cheveux? C'est fabriqué comment, ça? Et ça, c'est le poulet qu'il a mangé il y a un mois. Si je touche à un centimètre du bord. Vous voyez? Bon. Si je touche la peau ici, je demande c'est quoi? Et c'est le poulet qu'il a mangé il y a 3 jours. Et là, peut-être des questions qui naissent. Ah oui, vous n'avez pas de questions. Comment le poulet devient un cheveu? Alors là, la digestion commence à avoir du sens. Si on crée pas si on perd pas du temps là-dessus, vous pouvez faire des beaux schémas que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marche pas. Alors. Donc là, c'est un point de départ. Après, ça suffit pas, il faut faire des jeux de rôle éventuellement, pour faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la digestion. Alors j'arrive, je suis la nourriture, vous êtes la bouche, qu'est-ce que vous faites? Non, faites-le avec les bras. Vous malaxez. Voilà, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la bouche? La salive, alors vas-y, crachez-moi dessus. Après la langue, que fait la langue? Elle m'envoie chez l'estomac. Qui fait quoi l'estomac? Voilà, il malaxe, malaxez-moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne descend pas. Ça commence à couper la nourriture, ça commence à déshabiller la nourriture. Donc je devrais me déshabiller, voilà. Voilà des éléments qui permettent éventuellement de concrétiser, de faire des constructions, si vous voulez. Bon, on pourrait multiplier les exemples, vous voyez. Et là aussi, vous voyez que c'est toujours l'interpellation. C'est de l'aide à penser, le jeu de rôle, c'est de l'aide à penser dans ce cas-là. C'est la confrontation éventuellement à des personnes qui pensent à la même chose. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Qu'est-ce qui permet de dire ça? Vous voyez? C'est comme ça qu'on arrive parfois à déconstruire en regroupant différentes activités ou différentes confrontations.
Alors, André, la question du groupe ou du
monde. Il y en a
plusieurs.
Est-ce que
je peux intervenir maintenant ou pas?
Après, juste.
Après la question?
Oui.
Des constatations, déjà, votre topo a déjà provoqué beaucoup d'interrogations et certains se demandent si ça va leur permettre d'aller plus loin. Beaucoup de questions aussi sur la déconstruction, bon, vous avez déjà répondu. Quelqu'un pose la question, y a-t-il quand même des conceptions qui ne sont pas dangereuses? Non, des conceptions. Ou des constructions.
Oui, on peut accepter des conceptions qui soient erronées pour la science, mais qui peuvent être une aide à penser pour le patient. Vous pouvez les garder. Si une personne me dit la chaleur, c'est un fluide, pour les problèmes que je traite en diabète ou obésité, ça ne me dérange pas. Il n'y a que pour le micro-ondes, ça me dérangerait, mais pour le diabète, ça ne me dérange pas, oui. Ça suffit, c'est un modèle suffisant pour comprendre les problèmes énergétiques du corporel.
Certains aimeraient que vous reprécisiez ce que c'est que la quadripédagogie.
C'est jongler avec les quatre modèles que je vous ai proposés, modèle frontal, modèle du conditionnement, modèle de la construction et modèle holostérique. Je répète, frontal ou transmissif ou académique, comme vous voulez, c'est-à-dire l'idée qu'on fait passer un message en disant, en montrant. Conditionnement, je crée une situation qui va créer un comportement. Constructivisme, c'est le modèle à la mode, c'est-à-dire je vais faire des actions, je fais des travaux de groupe, je fais des projets. Et à l'austérie, c'est à la fois construction et déconstruction, en travaillant sur le système.
Et ensuite, une dernière question, que faire devant un patient qui n'est pas du tout adhérent?
Envoyer un psycho. Et vous le recevez pire après.
Alors, oui. Un empêcheur d'éduquer en rond qui ne tient plus.
Oui, je ne tiens plus. Je voudrais être grossièrement caricatural. Je suis un peu là pour ça. Et je réagis en tant que...
Philosophe.
Philosophe diabétique, c'est-à-dire professionnel du diabète depuis 41 ans. 42 ans, maintenant. La déconstruction, bon, outre que c'est un concept d'Héridien, mais je ne pense pas que tu l'utilises tout à fait dans ce sens-là, en philosophie, je pense qu'on ne peut pas s'autoriser à déconstruire, y compris le savoir de quelqu'un et encore moins quelqu'un. On se déconstruit. C'est-à-dire que c'est une démarche. Tu peux inviter quelqu'un à l'idée de déconstruire des savoirs que tu considères comme non pertinents. Mais... Et le deuxième point, c'est le même, c'est la manipulation pour déconstruire. Moi, éthiquement, je suis totalement contre. Les images que tu as montrées, moi, j'ai du mal à ne pas voir une jeune femme avec des fesses. C'est peut-être mon problème. Mais je pense qu'il y a les deux images. Il n'y en a pas une qui est nécessairement plus vraie que l'autre. Tu renverses le chat en chien, je suis désolé, il y a les deux. Ça dépend, d'une certaine façon, dans quel sens on le prend. C'est d'ailleurs ce que tu montres, en fait. Et j'ai eu le sentiment, un petit peu, mais c'est pour te provoquer, hein, à expliciter, qu'on avait l'impression que le patient avait des croyances, comme on dit, des représentations, et que le médecin avait des certitudes. Or, il me semble qu'on a bien vu ce matin que la certitude, c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Je pense que le médecin a aussi des représentations et des croyances, dont certaines sont validées, c'est les croyances qu'il emprunte aux sciences, mais qui ne sont pas que des conceptions médicales. Et
des fausses croyances aussi pour le monde médical.
Il y a aussi des fausses croyances. Donc je serais plus pour une relativisation de ce modèle. Voilà, je te lance le défi.
Non, mais ce que tu dis, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je n'ai jamais dit que le patient déconstruit. J'ai dit, il faut nous créer un environnement qui va l'aider à déconstruire. C'est lui qui va le faire. On ne peut pas le faire à sa place. Ça, c'est le propre philo qui pense qu'il peut faire passer un message.
Je pense qu'on a vu des erreurs, mais... Ah non, non, pas du tout. Enfin non, j'ai renoncé à mi-carrière. J'ai commencé à être meilleur. Mais il a des bonnes raisons de se tromper. Et je crois que c'est ça qu'il faut étudier. Et il a des bonnes raisons d'avoir des représentations erronées. Il n'y a pas que des représentations fantaisistes. Je veux dire, il y a aussi des blocages représentationnels qui sont... Le fait de blocage affectif, émotionnel. Et c'est ça qu'il faut peut-être travailler d'abord pour avoir un fruit cognitif après.
C'est ce que j'ai dit. Hein.
Bon, alors on est d'accord, mais j'ai pas compris.
Simplement, pour moi, il n'y a pas seulement le cognitif à travailler. Très souvent, il faut travailler l'infracognitif et le métacognitif. C'est-à-dire les sous-bassements de la pensée, qu'on n'interroge jamais, nos évidences de pensée, notamment renforcées par les maths et la philo à l'école. Pour en discuter après, mais les maths, c'est dramatique pour comprendre la complexité. L'EMA nous renvoie à une logique classique, qui est celle de 1 plus 1 égale 2. Alors vous savez bien que le tout est plus que la somme des parties, que la partie peut être dans le tout, et le tout dans la partie. Donc là, il y a une autre logique qu'il faut repasser aussi. Et en philo, là, vous le savez très bien qu'il y a des logiques différentes. Malheureusement, vous restez très souvent aux auteurs classiques, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui de parler de ça.
Alors,
Et pour les médecins, je terminerai en disant que, bien sûr, le savoir scientifique, le savoir médical, est un savoir c'est aussi des conceptions. C'est des conceptions qui ont réussi, du moins qui sont acceptées à un moment qui fait consensus par le milieu médical, le milieu paramédical, etc. Mais à un moment donné, ça va être aussi réfuté. Et là, Grimaldi, ce matin, nous a fait un exposé génial là-dessus, qui devrait être proposé à toute la formation de soignants, et pas seulement.
Oui. Tu nous confirmes donc, on ne voit pas pourquoi il faut emmerder un patient qui a des connaissances erronées, alors qu'il a la compétence dans sa vie quotidienne.
Pour moi, je suis très pragmatique. Quand ça marche, pas la peine de se compliquer.
Donc je manipule parfaitement mon spray de Ventoline, et je pense que les branches sont à l'envers et qu'elles sortent par derrière. Je ne vois pas pourquoi on s'acharne à embêter ça. D'accord.
Dans ce cas-là, non.
Alors par contre, ce qui me paraît plus flou dans ce que j'ai entendu, c'est depuis quand l'éducation thérapeutique sert à changer les comportements? Moi, j'ai un vrai souci.
Certains d'entre vous veulent bien changer le comportement alimentaire.
Non. Certains d'entre nous veulent créer les conditions qui permettent à quelqu'un d'interroger son comportement alimentaire, au bout duquel il confirme qu'il a bien raison de continuer à boire du vin ou autre. Ou alors, au cours duquel il confirme que peut-être il faut qu'il interroge sa consommation. Mais l'objectif, donc, de l'éducateur n'est pas de changer le comportement. Il est d'accompagner une interrogation à la sortie de laquelle la personne confirmera ce qu'elle fait avant, changera ou pas. C'est sa marche d'autonomie et de liberté, si tant est qu'il en a aussi pour éventuellement changer. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, je ne savais pas que simplement que les empêcheurs de tourner en rond étaient très jésuites de formation.
Quand vous dites effectivement il faut servir du conditionnement pour le geste, j'aimerais que vous précisiez, parce que moi j'ai l'impression que quand les gens font un geste, apprennent un geste, ils sont terriblement conditionnés. Le conditionnement existe dans l'objet qui a été dessiné par quelqu'un, qui déjà était conditionné. Et d'ailleurs, si effectivement, dans l'asthme, s'ils servent tellement mal des produits, très souvent, c'est parce qu'ils ont une intelligence intuitive. Et il n'y a rien à faire, on ne la remettra jamais en question. Il faut leur donner un objet pour lequel ça correspond à l'efficacité. Donc ce n'est pas vraiment du conditionnement.
Je ne sais pas, il faudra prendre un exemple concret, là je ne l'ai pas en tête. Donc je viendrai voir ce que vous faites. Pour voir si du conditionnement ou pas, là je ne peux pas répondre.
Non, c'est-à-dire qu'effectivement, face à un geste qui est très mal fait, parce qu'effectivement il est contre-productif. Vous voulez délivrer un spray, le spray n'est pas pris. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi je ne vois pas faire d'autre que de mettre de l'intelligibilité. Casser votre spray, montrer comment il fonctionne, sinon vous ne pouvez pas. Et à condition effectivement d'être d'accord sur ce qu'on a compris, se mettre d'accord à la fin. Mais je vais reconditionner, ça ne servira à rien. Les gens c'est des culbutos. Vous les faites varier, ils reviennent toujours sur leur point d'équilibre. La connaissance qu'ils ont préalablement, il n'y a rien à faire. Donc effectivement, je ne passerai pas par un nouveau conditionnement, j'essaierai de passer par l'intelligibilité partagée. Donc je ferai des transparents, je casserai la machine, je montrerai comment ça fonctionne. Parce que ces machines ont une logique qui ne correspond pas souvent à celle qui est perçue. Les turbulents à lèvres, c'est du rouge à lèvres. Il n'y a rien à faire. Les gens le prennent souvent comme un rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres, on en prend plus souvent qu'un turbulent à lèvres.
Donc je vois l'obstacle entre nous, là, est un obstacle infracognitif. Le fait que je dise qu'il faut conditionner pour un geste technique, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours conditionner pour un geste technique. Voilà. Mais oui, quand on dit quelque chose, très souvent, c'est automatiquement généralisé. Ça, c'est aussi un raisonnement implicite de la pensée humaine. Alors qu'aujourd'hui, il faut jongler avec, là aussi, plusieurs façons de penser, suivant le problème qu'on aborde.
Alors, on va terminer les 10 dernières minutes, voilà. Par une question, Claire?
Oui. Il y avait encore une question dans le groupe qui questionnait la faisabilité, la possibilité, comment faire finalement pour aborder les 5 dimensions que que vous énoncez dans le cadre, par exemple, d'un atelier d'éducation thérapeutique.
Oui, voilà, puisque ce matin, il y a un livre qui a été présenté. Je peux vous dire qu'il y a un très bon livre aussi que nous avons fait, qui s'appelle « Comment motiver son patient à changer ». Vous trouvez des exemples concrets. Éventuellement, je pourrais prendre des exemples, si nous avons du temps encore après.
On va prendre 10 minutes.
Mais ce matin, il n'a pas présenté suffisamment son livre. J'aimerais qu'il répète le titre du livre aussi.
Philippe.
Philippe, le titre de votre livre.
Alors, mon livre,
ben oui, alors,
ça s'appelle « La blessure et la force ».
Aux éditions.
Pas allumé. Si, voilà. C'est allumé.
Parfait. «
La blessure et la force » au PUF, Presse universitaire de France. Merci, hein, mais je n'ai pas demandé l'écran.
Ah, mais c'est moi. Alors, une question.
Il restait une question, Daniel. Dans le groupe. Vous avez dit qu'il fallait donner du sens aux choses. Et il y a une question qui demande si c'est la direction, si c'est la signification ou si c'est la sensibilité.
Alors, je dirais que c'est à la fois la direction et la sensibilité qui sont importants.
D'accord.
La signification, c'est moi qui ai posé. Oui, je me permets. Je suis un peu gêné par votre discours et j'ai l'impression que vous imposez quelque chose.
Ah, c'est pas un discours. Moi, ce que je vous propose là, c'est le résultat d'observation
et
d'expérience qu'on a fait en relation avec l'équipe Astal et aujourd'hui l'équipe Gaulle.
On va rebondir puisque vous avez dit que la science est vraie pendant un certain temps. Et on peut discuter très longtemps comme ça tous les deux, mais c'est pas le but de la journée. Et la signification, vous en faites quoi? Le sens, vous en faites quoi? Et la sensibilité, vous en faites quoi? Vous répondez 2/3, moi je réponds 3/3. Donc je voudrais avoir votre avis.
Ben, moi je travaille surtout la sensibilité, pour moi c'est l'affect, donc vous voyez. Et le sens, c'est le cognitif, le méta et l'infra, si vous voulez. Le troisième, je l'utilise peu. Mais peut-être il faudra que je regarde votre.
Je pense que c'est une perte.
Ben oui,
c'est tout.
Ça peut être un prochain modèle. Alors, puisque certains voulaient tout à l'heure un exemple concret, oui, j'ai pris un exemple très, très simple sur le stress, où on travaille à la fois le cognitif, vous voyez, avec toujours un atelier. Et là, vous trouverez dans le bouquin les temps, les activités qu'on fait faire, les outils qu'on utilise, etc., etc. Vous voyez, donc on travaille sur le cognitif à ce niveau-là. On travaille sur le métacognitif à ce niveau-là. On travaille toujours en tant que système au niveau infracognitif sur ces plans-là. Et vous voyez que très souvent le méta et l'infra se retrouvent. C'est en travaillant sur le méta qu'on arrive à creuser et voir l'infra. Et on ajoute, pour nous, une dimension, la dimension ressentie, perceptive. Et là aussi, on fait travailler aussi sur la dimension perceptive. Et à travers ces cinq dimensions, on va dans quatre directions. Alors là, c'est le sens dans quatre directions. On travaille à la fois sur la mise en place d'un projet, et là, ça va choquer certains d'entre vous, le projet de vie. On travaille sur l'émergence de la personne. Souvent, l'obstacle est lié à la personne. Et là, je pense qu'il y a un nouveau métier à créer qui est transversal à la psycho, l'anthropo, la philo, l'éthique, etc. Et puis on travaille sur des choses très concrètes comme de sentir ses ressentis et mobiliser ses savoirs au quotidien, c'est-à-dire non pas apprendre des gestes dans un contexte, mais les apprendre dans le contexte habituel de la personne. Ça, c'est à travers ce que je propose là, c'est dans les semaines qu'on fait, soit sur l'obésité, soit sur le diabète.
Merci. Dernière précision pour dire que c'est le quart d'heure pub. Donc on a sorti un catalogue d'outils pédagogiques en éducation thérapeutique. On fait aussi des expertises d'outils pour voir comment ils sont construits. Et on n'est quand même pas dans le désert. Il y a énormément aujourd'hui d'outils qui fonctionneraient, je crois, assez bien avec cette approche-là. Pour n'en dire qu'un, et si on parlait d'autre chose, primé à la Société européenne d'éducation thérapeutique l'année dernière, c'est bien un jeu qui permet d'aller effectivement explorer toutes ces dimensions-là. Je crois que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui utilisent, dans leur séquence, des jeux ou des animations ou des qui résonnent bien avec ce modèle. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on laisse planer le doute qu'on est là dans un désert où il y a peu de choses pour travailler comme ça.
Complément de Patrick. André, en 5 minutes, des messages.
Oui, peut-être quelques outils pour sur la complexité, par exemple l'incertitude.
Voilà.
Mais avant, je voulais finir sur le comportement en disant que le changement de comportement n'est jamais immédiat. Alors là, c'est pour les soignants, hein, c'est pas pour les patients ce que je propose là. Aujourd'hui, il est intéressant de faire une réflexion sur les outils qu'il nous faudrait pour comprendre ce monde complexe où ces savoirs complexes font passer et puis ces savoirs incertains aussi. Là, il y a toute une série d'outils sur lesquels je ferai récemment lister aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé, je vous enverrai un document qui pourra vous permettre de creuser. Oui, la première chose intéressante, c'est la pragmatique. Je ne sais pas si vous en avez dû parler. C'est une démarche qui consiste non pas à résoudre des problèmes, comme très souvent vous êtes formé dans les milieux médicaux et paramédicaux, mais une démarche qui est là pour poser les problèmes. Poser les problèmes, là voilà, poser les problèmes pour trouver des explications, donc des modèles explicatifs, éventuellement trouver des solutions qui ne sont jamais des solutions, ça peut être des optimums, des solutions contextualisées, et ensuite il faut savoir réfléchir au changement. Là c'est une formation pour nos hommes politiques. Il faudrait penser le changement autrement. Alors les problèmes, vous voyez, si vous travaillez sur la maladie chronique, vous apercevez que la maladie chronique fait surgir toute une série de problèmes qu'il faudrait pouvoir travailler et pour laquelle il faut pour chacun trouver des optimums. Donc ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil, évidemment, c'est l'analyse systémique qui devrait être appris dès l'école maternelle et qui manque aujourd'hui dramatiquement dans notre formation. Hein, c'est l'idée de quoi? Si je prends Rémi, je le mets sur la table, je le découpe en morceaux, il y a tout de Rémi et pourtant il n'est plus là. Ce qui veut dire que ce qui fait Rémi, ce n'est pas la somme de ses parties, c'est les liens et les interactions de ses parties. Et là, de ses organes, excusez-moi. Vous voyez, si on travaille là-dessus, on sera aperçu à propos de la grippe aviaire, ou etc., ou la vache folle, que les problèmes sont ailleurs de ceux auxquels on pense. Donc en permanence, apercevoir qu'il y a des liens, qu'il faut faire des liens. Et ça, c'est malheureusement pas suffisamment développé. Et notamment, si on travaille, par exemple, sur la motivation, s'apercevoir que la motivation, c'est un ensemble de paramètres qui interviennent. Les besoins, le plaisir, le bonheur, la joie, on l'a dit, le projet de faire, de vivre. Et puis en même temps, il y a des choses qui contrecarrient, comme l'estime de soi ou comme le sentiment d'autonomie, et que tout ça rentre dans un système de récursivité qui fait que se crée une dynamique. S'il y a réussite, ça renforce la motivation. S'il y a échec, il faut travailler sur les échecs, mais faire de ces échecs non pas des fautes, des erreurs, des faux pas éventuellement, pour pouvoir rebondir dessus. Ça, c'est un outil qu'il faut travailler. Un autre outil sur lequel il faut travailler, mais il faudrait prendre plus de temps, c'est apprendre à lire pour comprendre le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde difficile, où le problème n'est pas le manque d'information, c'est le trop d'information. Comment on triste l'information, quel mot-clé on met. Et surtout, le gros problème, c'est comment on se pose des questions par rapport à l'information. Qui la donne, à quel moment la donne, et qu'est-ce qu'il y a dans cet enjeu d'information. Juste pour prendre un exemple très rapide sur des images que j'ai récupérées à propos d'un cyclone à Nouvelle-Orléans. Voilà la légende ici. Vous voyez que la personne est un peu foncée de peau. La légende, c'était un homme marche à travers les flots profonds après avoir pillé une épicerie à Nouvelle-Orléans. L'image suivante, c'était deux hommes un peu plus clairs, une femme beaucoup plus claire. Et cette fois-ci, la légende, c'était deux résidents progressent dans les eaux profondes après avoir trouvé du pain et du soda dans une épicerie locale. Donc là, il y a tout un travail à faire sur... Moi, je le fais faire à mes étudiants, surtout par rapport à l'histoire. Voilà ce qu'on proposait comme traitement il y a 30 ans au Rabdam. En plus de 30 ans, 50 ans. Le taux radia qui raffermit, tonifie les tissus, et c'était à base de radium et de thorium qu'on déclinait en poudre, en crème, en dentifrice, etc. Donc là, c'est un autre sujet, un autre point sur lequel il faudrait travailler. Vous pourrez faire le travail, évidemment, sur ce que vous avez aujourd'hui. J'ai parlé des savoirs organisateurs. Là aussi, il faudrait réfléchir à des savoirs organisateurs. Je vous en donne quelques-uns ici qui me semblent importants à travailler. Si on prend l'exemple d'organisation, vous voyez, de l'atome à l'hôpital, toute organisation. Mais organisation, c'est pas n'importe quoi. Une organisation qui réussit, c'est une organisation qui a bien sûr des éléments d'interaction, mais où il y a des régulations. Ce qui est génial dans notre corps, si vous voulez, notre corps est très paradoxal avec des mécanismes contradictoires, antagonistes, mais ce qui fait qu'on maintient, se maintient en vie, c'est parce qu'il y a des mécanismes de régulation et même de régulation de régulation. Et en même temps, chaque fois qu'il y a organisation, il y a des émergences avec des flux de la matière. Donc il faudrait travailler là-dessus. Une autre piste, éventuellement, c'est la physionique, pour sortir justement de nos modèles habituels. La physionique, c'est le prolongement de la bionique. La bionique, c'est aller voir dans le vivant des idées pour l'industrie. Vous savez que les premiers avions ont été repérés sur les vols de chauves-souris. La tour Eiffel a été construite à partir des études qui ont été faites sur le fémur. Les lignes de force du fémur ont permis de construire la tour Eiffel. Voilà. C'est un physiologiste allemand qui travaillait à Zurich qui a permis ça. Bon, vous connaissez le velcro. Bon, on peut faire pareil sur la physionique. La physionique, c'est un moyen de trouver des idées pour les organisations, et notamment quand on travaille dans un service. Comment travailler autrement dans le service, et notamment, comment penser la complexité. Non pas par simple imitation de la nature, mais ça donne des idées, si vous voulez, en matière de communication, en matière de capteurs, en matière d'organisation, en matière de mémoire. Voilà. Voilà une piste possible aussi. Une autre piste aussi, c'est la démarche savoir émergent. Il y a plein de domaines où il n'y a pas aujourd'hui encore de savoir sérieux. Et on est obligé de travailler sur l'expérience. Il faut tirer parti collectivement de l'expérience. Et on essaie de mettre en place, si vous voulez, des démarches en tirant parti de l'expérience. C'est un point sur lequel vous pouvez, si vous êtes intéressé, il y a un bouquin là-dessus, savoir émergent. Et le dernier point sur lequel il faut travailler éventuellement aussi, c'est les sous-basements de la pensée. Là, je l'évoquais tout à l'heure. Une évidence est souvent une réponse à une question qu'on a oubliée. Et j'ai évoqué que le tout est autre chose que la somme des parties. Très souvent, nos patients n'ont pas idée que s'il y a une cause, il y a un effet, et surtout que l'effet pourrait rétroagir sur la cause pour aggraver le problème. C'est travailler sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Un verre de bière, ça peut être très bon ou très mauvais. Voilà, donc l'idée d'optimum, que le tout pas dans la partie, que le dedans et dehors, c'est pas évident. Et puis éventuellement, autre évidence, travailler gagnant et perdant, ça devient la mode, solution optimum. Indicateur de richesse et indicateur de santé, bien sûr, puisque vous savez que la richesse augmente avec les gens malades et diminue avec les gens en bonne santé, du moins le PIB. Puis un dernier point, toujours au niveau infra, c'est se poser qu'est-ce qu'on fait dans un monde incertain et complexe. La plupart des gens dépriment, vivent le Temesta exomile, tout fout le camp, ou éventuellement on s'enferme dans une identité, les steaks frites, le gros rouge, on cherche des panacées, des recettes, alors qu'il faudrait dire que la complexité et l'incertitude, c'est normal. Vous n'êtes pas sûr de rentrer chez vous ce soir. Soit parce que l'accident de la route, ce que je ne vous propose pas, soit parce que vous tombez amoureuse ou amoureux. Voilà. Donc, l'incertitude est permanente dans la vie, dans nos vies. Il faut en faire quelque chose de naturel et l'affronter, objectivement et pas seulement. Voilà.
André.
Voilà, j'arrête là, en disant que la mer est le ciel des poissons.
Ben voilà. C'était bien tombé, non ? Merci beaucoup, André.